À l'écoute d'RCF Nice Côte d'Azur, tout de suite votre émission Culture et Spiritualité avec le Père Vincent Paul Toccoli. Nous poursuivons notre parcours de méditation avec son livre Le Petit Traité de la Compassion.
Nous constatons qu'habituellement, c'est la vie qui oblige à décéder, si décider suppose qu'on s'y entraîne, avant que d'y être forcé sans préparation. S'exercer à décéder méthodiquement, et d'abord faire retraite, se déplacer, mettre de l'espace et du temps de soi aux êtres et aux choses, ne plus parler, faire le vide, s'enfouir, se réduire, disparaître. Ensuite, articuler le monde, affiner la perception, identifier le phénomène, interpréter les événements, assimiler le sens. Puis s'ordonner à une instance, à une règle, à un principe, pour renoncer à l'initiative, au contrôle, à l'appropriation, et afin d'accéder à la vacance intérieure, à l'indifférence positive, à la disponibilité inconditionnelle. Enfin, transgresser les limites. Oser parier sur l'existence plutôt que sur l'absence de perspective. Et illimiter le langage en communication sans le perdre dans la cacophonie, le temps en continuité, sans le perdre dans le néant, l'espace en expansion, sans le perdre dans la totalité, la souffrance en croissance, sans la perdre dans le mal, la mémoire en présent, sans la perdre dans le souvenir, le récit en célébration, sans le perdre dans la fiction, la peur en foi, sans la perdre dans l'idolâtrie, la mort en interrogation, sans la perdre dans le désespoir. Tout serait-il nécessairement fatal ? L'existence devrait-elle se réduire à une conscience triste sous le soleil? Pourquoi la nuit éteindrait-elle la lumière? Résister pour vivre, oui, mais pourquoi résister à la vie? Compatir avec celui qui souffre ou qui meurt, c'est cela, accompagner. Peut-être la tristesse ne signa-t-elle qu'une absence de courage entre lâcher prise, qui est une décision, et perdre prise, qui est un accident, se déroule peut-être aussi l'ère de jeu entre la paix et la peur. Après toutes les considérations utiles et nécessaires, la froide honnêteté aboutit au constat suivant. En définitive, on n'est jamais que soi-même. Et il ne faut voir dans cette déclaration aucune profession de foi égocentrique, mais la simple déduction pratique appliquée au domaine où nous évoluons du « aime ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire « aide, assiste, accompagne l'autre comme tu t'aiderais, assisterais, accompagnerait toi-même. Que l'on aime l'autre au point de l'aider, assister, accompagner, ou qu'on l'aide, l'assiste, accompagne, et qu'on finisse par l'aimer, dans les deux cas, la référence reste celui à qui s'adresse le conseil. Et la question devient alors, comment m'aimer assez pour être capable de m'aider? Comment m'aider moi-même et finir par m'aimer? C'est ainsi que, dans cette mesure, je pourrais aider, assister, accompagner, aimer l'autre, en face de celui qui souffre ou se meurt. C'est encore à moi que je suis renvoyé. Et s'il est vrai que la vie que nous menons est conditionnée par toutes sortes de facteurs appartenant au dehors et au dedans, le plus déterminant d'entre eux me paraît être notre santé intérieure. Et une bonne santé est indispensable pour accomplir ce travail de compagnonnage existentiel. S'en remettre à la velléité, comme d'ailleurs à la bonne volonté, promeut une attitude mentale aussi irresponsable que pernicieuse, qui ne pourra d'une part répondre de rien, et ne transmettra d'autre part que les miasmes de sa propre mauvaise santé. Notre être profond, notre personne essentielle, se situe au carrefour de notre héritage génétique et de notre capacité à l'exploiter. C'est un véritable travail, avec tout ce qu'il implique de volonté, de méthode et d'engagement, un travail sur soi. Je suis à la fois la terre et le travailleur de la terre. Le mental se sculpte comme les statues, dans les matériaux les plus divers, les plus nobles comme les plus humbles. On se fait l'âme comme on se fait la main, en pratiquant. La vie intérieure est un exercice. Car les exercices sont multiples en ce domaine et dépendent des sensibilités. En voici cinq qui peuvent constituer un humus favorable à la secrète éclosion d'une unité intérieure. La patience, le silence, l'humilité, la quiétude et la conviction. Cultiver la patience, qui est la capacité non seulement de supporter longtemps, mais de souffrir proprement. Pour en évaluer l'ampleur chez soi, il suffit de considérer des choses comme le linge souillé, l'odeur et les odeurs, le spectacle, l'atmosphère inconfortable, la sensation physique du temps perdu, le sentiment du dérisoire et de l'inanité de toute initiative, l'inutilité. Cette patience consiste à renoncer à certains critères d'efficacité et de performance qui ne valent pas en ses affaires. Compatir, mourir avec, et cette part où chacun meurt jour après jour varie suivant la personne et le moment. Mort multiple que les circonstances s'ingénient à ressusciter sans cesse. M'assembler parfois m'asseoir à mon propre chevet. Tellement inévitable surgissait la nécessité du sacrifice de moi, comme c'est l'adéquation à l'urgence de l'instant. Se mourir à soi n'est pas à confondre avec la soi-disant vocation au martyr, l'obsession masochiste et le complexe de culpabilité. Il relève d'une décision libre et volontaire devant la souffrance et d'une responsabilité personnelle dans la solidarité humaine, ni un châtiment ni une drogue, une action. Mon action. Cultiver le silence, qui est la capacité non seulement de se taire, mais de communiquer sans parole. Être présent quand on est là. Quel bruit, quel bruit ce pluriel en nous, et nous devons donner le change en laissant croire à notre présence active, tandis que notre imagination vagabonde ailleurs ou que notre esprit est tout à nos affaires, loin de l'autre. Silence, refuge des grands mensonges, point de suspension de la communication, bavardage muet et qui exclut plus sûrement que des logorées. Et notre vacarme intérieur retentit parfois si fort qu'on croit entendre distinctement claquer les portières de nos fuites. Attitude grave et lourde de conséquences, on gaspille, on détourne, on vole de la présence, faux et usage de faux. Et l'autre, alors, est encore plus seul que si nous n'étions pas là. Le silence. Ce silence à cultiver est le sacrement d'une parole qui vient du loin et qui s'adresse à notre réceptivité pure. L'exercice consiste à se rendre capable de capter sur des longueurs d'onde inusitées des messages à déchiffrer avec des codes de mondes insoupçonnés. Ces mondes, nous y vivons déjà. L'autre et moi-même qui spie là son avantage et qu'il y est déjà plus sensible que moi. Si je l'écoute, et peut-être saura-t-il m'en murmurer des bribes. Et si je me révèle inapte à ce silence et à cette écoute, que je ne reste pas, on ne m'en voudra pas, puisqu'on ne m'a jamais demandé de venir. Cultiver l'humilité qui est la capacité non seulement de ne plus savoir, mais de l'admettre sans renoncer à agir pour autant. Même parfois, souvent, ne plus savoir pourquoi on est là. Plus que le simple sentiment de mon inutilité, je sais que je dois être là, j'y suis, j'assume d'y être, mais je me découvre démuni. Pas la panique non plus, le désarroi plutôt. Désarroi des jeunes mères qui ne savent pas, avec leur enfant nouveau-né, on ne sait jamais. Le premier enfant, on l'élève en apprenant à l'élever. Avec les suivants, on sait faire d'une certaine façon. Toute expérience première est importante, surtout parce qu'elle est la première, et qu'elle est guettée par le n'importe comment. Personne ne sort indemne des premières fois, et comme on ne meurt qu'une fois. L'humilité s'apparente à une sagesse qui nous met dans un état paradoxal de passivité active. Passivité car toutes nos facultés de perception, d'observation et de réception sont maintenues en alerte permanente et tous azimuts pour capter toutes les informations, d'où qu'elles viennent et de quelque sorte et de quel ordre qu'elles soient. Active, car notre esprit, notre intelligence, notre volonté, notre cœur traitent toute cette information pour en décoder le sens et en élaborer les réponses les plus adéquates aux stimuli perçus, sous forme d'attitudes mentales, de comportements, gestes, critères, valeurs, etc., que chacun assumera comme sien. L'autre sens est bien du dénuement qu'il écoute. Il se reconnaît lui-même dans son propre dénuement devant l'échéance. Il me tend autant sa propre main que je suis prêt à lui tendre la mienne. Ici, l'accompagnement s'articule au-delà, ailleurs, en tout cas, que dans l'arsenal de ses certitudes fonctionnelles. Et la seule aide à offrir est cet élan vital qu'un homme transmet à un autre homme dans l'anonymat redevenu premier de la solidarité originaire. Cultiver la quiétude, qui est la capacité non seulement de n'être ébranlé par rien et de reposer en soi, mais aussi d'irradier la sécurité et de pacifier l'entourage. Cette tranquille et souveraine sérénité au milieu des aléas et des vicissitudes de l'existence quotidienne exige un particulier entraînement et une non moins particulière constance. Elle constitue certainement le fruit le plus exquis de cette positivité fondamentale évoquée plus haut. Puissance de discernement de tout ce qui est relatif, la quasi-totalité du monde. La quiétude s'apparente ainsi à la claire vision que si tout peut paraître important, si peu en fait est essentiel, et elle procède à une rectification permanente et quasi-automatique des axes et références d'évaluation pour ne pas confondre le centre avec la périphérie. La quiétude éduque à devenir l'élève docile du temps sans que rien de durable ne se construit. Si elle est opiniâtre, c'est sans effort, car elle n'attend rien, s'attendant à tout. Elle a appris beaucoup, partout et de tous. Ce qu'elle a retenu au crible de son discernement, elle l'a fait sien, au point d'une parfaite assimilation. Et si elle donne l'air de faire ce qu'elle veut, c'est qu'elle s'est entraînée à vouloir ce qu'elle fait et ce qu'elle doit faire. Elle génère autour d'elle des champs d'attraction de type électrique et magnétique. Son contact est bienfaisant. Il détend et console. Elle ne confond pas le moelleux et le mou, le discret et le fade, le doux et le faible. La quiétude est une conquête âpre de l'exigence, de la discipline et du devoir. C'est au prix de la quête de l'essentiel que l'inutile peu à peu disparaît, pour laisser la place à de grands espaces où les avantages de la perspective donnent aux événements, aux choses et aux êtres leur dimension réelle, celle des existences éphémères, dont la nostalgie trouble parfois l'âme sans affecter jamais la saveur d'essentiel qui donne au peu qui reste le goût anticipé de la durée.